Les ménages parisiens sont dévorés par le besoin de se mettre en harmonie avec le luxe qui les environne de toutes parts. Aussi en est-il peu qui aient la sagesse de conformer leur situation extérieure à leur budget intérieur. Mais ce vice tient peut-être à un patriotisme tout français et qui a pour but de conserver à la France sa suprématie en fait de costume. La France règne par le vêtement sur toute l'Europe. Chacun y sent la nécessité de garder un spectre commercial qui fait de la mode en France ce qu'est la marine en Angleterre. Cette patriotique fureur qui porte à tout sacrifier au paroître, comme disait d'Aubigné sous Henri IV, est la cause de travaux secrets et immenses qui prennent toute la matinée des femmes parisiennes quand elles veulent, ainsi que le voulait Madame Rabourdin, tenir avec 12 000 livres de rente le train que beaucoup de riches ne se donnent pas avec 30 000. Ainsi, les vendredis, jour de dîner, Madame Rabourdin aidait la femme de chambre à faire les appartements car la cuisinière allait de bonne heure à la halle, et le domestique nettoyait l'argenterie, façonnait les serviettes, brossait les cristaux. Le malavisé, qui, par une distraction de la portière, serait monté vers 11 heures ou midi chez Madame Rabourdin, l'eût trouvé au milieu du désordre le moins pittoresque, en robe de chambre, les pieds dans de vieilles pantoufles, mal coiffées, arrangeant elle-même ses lampes, disposant elle-même ses jardinières, ou se cuisinant à la hâte un déjeuner peu poétique. Le visiteur à qui les mystères de la vie parisienne auraient été inconnus eut certes appris à ne pas mettre le pied dans les coulisses du théâtre. Bientôt signalé comme un homme capable des plus grandes noirceurs, la femme, surprise dans ses mystères du matin, aurait parlé de sa bêtise et de son indiscrétion de manière à le ruiner. La parisienne, si indulgente pour les curiosités qui lui profitent, est implacable pour celles qui lui font perdre ses prestiges. Aussi, une pareille invasion domiciliaire n'est-elle pas, comme dit la police correctionnelle, une attaque à la pudeur, mais un vol avec effraction, le vol de ce qu'il y a de plus précieux, le crédit. Une femme se laisse volontiers surprendre, peu vêtue, les cheveux tombants. Quand tous ses cheveux sont à elle, elle y gagne, mais elle ne veut pas se laisser voir faisant elle-même son appartement. Elle y perd son paroître. Madame Rabourdin était dans tous les apprêts de son vendredi au milieu des provisions pêchées par sa cuisinière dans l'océan de la halle, alors que M. Delupeau se rendit sournoisement chez elle. Certes, le secrétaire général était bien le dernier que la belle Rabourdin attendit, aussi, en entendant craquer des bottes sur le palier, s'écria-t-elle
« Déjà le coiffeur !»
Exclamation aussi peu agréable pour Delupeau que la vue de Delupeau le fut pour elle. Elle se sauva donc dans sa chambre à coucher où régnait un effroyable gâchis de meubles qui ne veulent pas être vus, des choses hétérogènes en fait d'élégance, un vrai mardi gras domestique. L'effronté Delupeau suivit la belle effarée tant il la trouva piquante dans son déshabillé. Je ne sais quoi d'alléchant tenter le regard. La chair vue par un hiatus de camisole semblait 1000 fois plus attrayante que quand elle se bombait gracieusement depuis la ligne circulaire tracée sur le dos par le surjet de velours, jusqu'aux rondeurs fuyantes du plus joli col de cygne où jamais un amant ait pu poser son baiser avant le bal. Quand l'œil se promène sur une femme parée qui montre une magnifique poitrine, ne croit-on pas voir le dessert monté de quelques beaux dîners? Mais le regard qui se coule entre l'étoffe froissée par le sommeil embrasse des coins friands et s'en régale comme on dévore un fruit volé qui rougit entre deux feuilles sur l'espalier. « Attendez, attendez !» cria la jolie parisienne en verrouillant son désordre. Elle sonna Thérèse, sa fille, la cuisinière, le domestique, implorant un châle et souhaitant le coup de sifflet du machiniste à l'opéra. Et le coup de sifflet partit. Et en un tour de main, autre phénomène, la chambre prit un air de matin fort piquant, en harmonie avec une toilette subitement combinée pour la plus grande gloire de cette femme, évidemment supérieure en ceci.
« Vous, dit-elle, et à cette heure, que se passe-t-il donc ?»«
Les choses les plus graves du monde, répondit Delupeau, il s'agit aujourd'hui de bien nous comprendre. » Célestine regarda cet homme à travers ses lunettes et comprit. « Mon principal vice, répondit-elle, est d'être prodigieusement fantasque. Ainsi, je ne mêle pas mes affections à la politique. Parlons politique affaires, et nous verrons après. » Ce n'est pas d'ailleurs une fantaisie, mais une conséquence de mon goût d'artiste qui me défend de faire hurler les couleurs, d'allier des choses disparates et m'ordonne d'éviter les dissonances. Nous avons notre politique aussi, nous autres femmes. Déjà, le son de la voix, la gentillesse des manières avaient produit leur effet et métamorphosé la brutalité du secrétaire général en courtoisie sentimentale. Elle l'avait rappelé à ses obligations d'amant. Une jolie femme habile se fait comme une atmosphère où les nerfs se détendent, où les sentiments s'adoucissent.
Vous ignorez ce qui se passe, reprit brutalement des Lupeaulx qui tenait à se montrer brutal. Lisez. Et il offrit à la gracieuse Rabourdin les deux journaux où il avait entouré chaque article en encre rouge. En lisant, le châle se décroisa sans que Célestine s'en aperçût ou par l'effet d'une volonté bien déguisée. À l'âge où la force des fantaisies est en raison de leur rapidité, des Lupeaulx ne pouvait pas plus garder son sang-froid que Célestine ne gardait le sien. « Comment, dit-elle, mais c'est affreux, qu'est-ce que ce baudoyer ?»« Un baudet, fit des Lupeaulx, mais, vous le voyez, il porte des reliques et arrivera, conduit par la main habile qui tient la bride. » Le souvenir de ses dettes passa devant les yeux de Madame Rabourdin et l'éblouit comme si elle eût vu deux éclairs consécutifs. Ses oreilles tintèrent à coups redoublés sous la pression du sang qui battait dans ses artères. Elle resta tout hébétée, regardant une patère sans la voir. « Mais vous nous êtes fidèle, dit-elle à des Lupeaulx en le caressant d'un coup d'œil de manière à se l'attacher. « C'est selon, fit-il en répondant à cette œillade par un regard inquisitif qui fit rougir cette pauvre femme. « S'il vous faut des arts, vous perdriez tout le prix, dit-elle en riant. « Je vous faisais plus grand que vous ne l'êtes, et vous, vous me croyez bien petite, bien pensionnaire. « Vous ne m'avez pas compris, reprit-il d'un air fin. « Je voulais dire que je ne pouvais pas servir un homme qui joue contre moi comme l'étourdi contre Mascarille. « Que signifie ceci ?»« Voici qui vous prouvera que je suis grand. » Et il présenta à Madame Rabourdin l'état volé par du toc, en le lui offrant à l'endroit où son mari l'avait analysé si savamment. « Lisez. » Célestine reconnut l'écriture, lut et pâlit sous ce coup d'assommoir. « Toutes les administrations y sont, » dit des Lupeaulx. « Mais heureusement, dit-elle, vous seul possédez ce travail que je ne puis m'expliquer. » « Celui qui l'a volé n'est pas signé que de ne pas en avoir un double. Il est trop menteur pour l'avouer et trop intelligent dans son métier pour le livrer. Je n'ai même pas tenté d'en parler. « Qui est-ce ? Votre commis principal. » « Dutoc, on n'est jamais puni que de ses bienfaits. Mais, reprit-elle, c'est un chien qui veut un os. » « Savez-vous ce qu'on veut m'offrir à